La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Je devais avoir une dizaine d'années quand mon père sortit du tiroir de sa table de travail une jolie petite boîte en buis qui, couvercle dévissé, laissa apparaître un morceau de métal déformé couché sur une litière de papier de soie. Il me le tendit avec un sourire mi-gêné, mi-goguenard. Après avoir traversé son cou, laissant une profonde cicatrice indélébile, le bout d'acier importun avait frôlé l'oreille interne et jugeait bon de s'arrêter à 1 mm du cervelet. Mon père en avait été somme toute très soulagé, même si de longs mois d'hôpital furent nécessaires pour le remettre debout. Ce fut la seule et l'unique occasion où il fit allusion devant moi à l'horreur de sa guerre.
Au musée Matisse, au Cateau Cambrésy, jusqu'au 30 septembre, Marcel Cromer. Avec Muriel Pey, Patrice de Parpe et Thomas Verbinski. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Cette année, pour nous, c'est une année d'expérimentation. Nous avons réalisé ce qui s'appelle un projet scientifique et culturel, qui est un peu le petit livre rouge du musée. Le dernier est daté de la réouverture du musée en 2002. Donc vous imaginez que depuis 2002, nous sommes en 2018, les choses ont bien changé.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach. Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tento tentum stelle.
Le Monde Invisible.
Muriel Pey.
Charge aussi bien des visites guidées que des ateliers de pratique artistique. À l'origine des liens entre Matisse et Cromer, eh bien, c'est une donation qui a été faite par Marcel Cromer de son vivant. En effet, il faut savoir que Marcel Cromer est né à Noyelles-sur-Sambre le 24 juillet 1892. Alors Noyelles-sur-Sambre, c'est un petit village de à peu près 300 habitants qui se trouve à côté du village de Maroilles, qui est réputé pour son fromage, et à côté donc du canal de la Sambre. Donc on est à peu près à 25 km du Cateau Cambrésy, pas très loin de Maubeuge et de Mons.
Patrice de Parpe.
La médiation, par exemple, tous les contenus numériques, etc., en 2002, ça n'existait pas. Les pratiques des gens, des visiteurs ont changé. Donc il y a, pour tenir compte de toutes ces évolutions, pour tenir compte d'un grand projet qu'a le musée d'agrandissement, on réécrit notre projet scientifique et culturel pour savoir vers quel public on veut aller, quel public on veut attirer, vers quelle dimension on veut aller pour le musée, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, comment on fait pour le corriger. Vous voyez, c'est un peu notre tableau de bord. Et donc, on a pris une année pour expérimenter des choses différentes. La dernière fois, nous avons expérimenté un artiste contemporain qui s'appelait Godon et qui travaillait d'une façon totalement différente de ce qu'on avait l'habitude d'exposer. Et on a vu que, par exemple, c'est l'exposition qu'il a réalisée autour du voyage de Matisse à Tahiti. Eh bien, ça nous avait attiré un public qui habituellement ne venait pas au musée.
Muriel Pey.
Donc Henri Matisse a fait une donation de son vivant à sa ville natale du Cateau Cambrésy. Et donc Marcel Cromer visite en 1955 ce musée qui se trouve à l'époque dans l'hôtel de ville du Cateau. Et il va rencontrer Maurice Guillot, qui était donc le conservateur bénévole de l'époque, et il l'invite dans son atelier à Paris. Et donc Marcel Guillot raconte cette anecdote dans une lettre où il se rend à l'improviste à Paris chez Cromer, qui l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme, parce que Cromer était un grand admirateur de Matisse, on en reparlera. Et donc il va décider de son vivant d'offrir 10 dessins à ce musée du Cateau Cambrésy, c'est-à-dire 5 nus et 5 paysages. Donc c'est vraiment une grande chance hein, pour le musée. Et donc ensuite, il y aura une autre donation par un autre artiste originaire du Cateau Cabrési qui s'appelle Auguste Herbin. Ensuite, cette collection Gromaire va s'étoffer d'une autre donation, c'est-à-dire le fils de Gromaire, François Gromaire, va décider d'offrir en 1994 eh bien, 31 dessins pour continuer l'acte de donation de son père.
Viarbinski, Thomas, je suis directeur adjoint depuis le 1er avril. Avant, j'étais conservateur des musées de la ville de Montélimar.
Il est né à Noyelles-sur-Sambre, mais sa mère meurt en couche de la petite vérole. D'ailleurs, il gardera hein, sur sa peau, son visage, les traces hein, de cette maladie. Et il va être élevé par trois femmes, par sa grand-mère maternelle, Reine Marie Biziot, qui était peintre amateur.
Une œuvre alors, qui n'est pas de Marcel Gromaire, mais de sa grand-mère, Reine Marie Biziot. Qui est extrêmement touchante et qui est d'ailleurs une des dernières pièces qu'on a pu avoir pour l'exposition. Sa mère décède après l'accouchement et donc il est élevé par sa tante et par sa grand-mère. Sa grand-mère n'a pas de succès et puis d'ailleurs ne recherche pas du tout de succès. Elle est quand même soutenue par Anatole Jakovski. Vous avez donc le musée d'art naïf à Nice. Donc elle a quand même une petite notoriété dans le milieu artistique. Et là, le défi, c'était de trouver un de ses tableaux, donc travail à Noyelles-sur-Sambre, auprès des habitants, pour justement mettre la main sur une œuvre et voir l'influence qu'a pu avoir sa grand-mère sur le travail de Marcel Gromaire, l'initiation aussi au côté artistique. Et ça, cette découverte était très jolie et assez poétique.
Et donc, vraiment, Reine Marie Biziot va initier le jeune Marcel Gromaire à la peinture, le fait de regarder, d'observer la nature. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Et il y a également, eh bien, sa tante qui va l'élever, sa tante Octavie.
Alors, la découverte, la magie de l'exposition, c'est que quand on a annoncé qu'on faisait une exposition sur Marcel Gromaire, on a eu des collectionneurs et des habitants qui nous ont directement appelés en disant « Ah, j'ai des œuvres, venez voir !» Donc, moi, je montais en voiture et puis j'allais voir. Même si on avait notre propos d'exposition presque clôturé, c'est toujours intéressant. Et ça a été donc des rencontres avec des collectionneurs, des agriculteurs qui avaient rencontré Marcel Gromaire, qui avaient eu souvent en donation des œuvres. Et elles étaient exposées là depuis des années, ou alors même parfois dans des armoires, notamment l'autoportrait, qui n'a quasiment jamais été exposé, l'autoportrait à l'âge de 18 ans, qui est une pièce qu'un couple d'agriculteurs avait, et c'était magique de la voir sortir comme ça de l'armoire, et puis présenter spontanément, sans exigence particulière, mais uniquement qu'elle soit diffusée, pour remettre Marcel Gromaire dans ce contexte d'un homme du Nord.
Octavie est une poète, elle est une très grande admiratrice de Victor Hugo. Elle va aussi initier Marcel Gromaire à la littérature. Donc ça, c'est important à souligner parce que Marcel Gromaire va aussi être un penseur, c'est-à-dire qu'il va écrire sur l'art, comme Matisse d'ailleurs, hein, des propos importants sur l'art. Alors il faut savoir aussi que son père était professeur agrégé d'allemand. Il va enseigner donc à Vennes-sur-Elle, puis à Douai et enfin à Paris. Il va également rédiger des ouvrages. Donc on est en fait dans une famille lettrée d'une bourgeoisie rurale. Ce sont des grands défenseurs des valeurs républicaines. C'est important de le souligner parce que Marcel Gromaire va aussi être un artiste du Front populaire, c'est-à-dire qu'il va montrer la vie quotidienne du peuple. Et donc ça, c'est important de le souligner. Alors il obtient son baccalauréat et pour faire plaisir à son père, hein, il va faire des études de droit. Il obtient d'ailleurs en 1909 son diplôme. Mais il est donc donc à Paris à cette époque, il vit à Paris et il va commencer à fréquenter le quartier de Montparnasse. Et là, eh bien, il va découvrir les avant-gardes artistiques de l'époque. Et c'est un vrai foisonnement à l'époque, hein, le quartier de Montparnasse. Il côtoie les cafés littéraires, comme le Dôme, par exemple. Et il va fréquenter les académies de Paris. Alors, il ne va pas s'attacher particulièrement à une académie, mais il va picorer hein, d'enseignement en enseignement. Et c'est là qu'il va découvrir l'enseignement de Matisse.
Et ces paysages du Nord, tels qu'ils sont magnifiés par l'artiste en question, comment vous apparaissent-ils ?
La lumière, puisqu'il a un attrait très important pour la lumière du Nord, il ne sera pas séduit comme Matisse par la lumière du Sud. C'est très intéressant de garder ces couleurs et cette intensité qu'on retrouve dans ces tableaux, ces paysages. Je suis parti à Noyelles-sur-Sambre et on retrouve exactement le même décor qui n'a pas changé plus de 40 ans après. Ça, c'est magique.
Il va rencontrer Henri Matisse, c'est important de le souligner, ils vont échanger, mais il ne va pas recevoir directement l'enseignement de Matisse. Il faut savoir qu'Henri Matisse va ouvrir une académie en 1908 jusqu'en 1912, mais par contre, Marcel Gromaire va suivre des élèves qui ont reçu l'enseignement d'Henri Matisse, notamment Pierre Dubreuil, qui va être un ami très fidèle de Marcel Gromaire. Et donc par ce biais-là, eh bien, Gromaire découvre le travail, surtout de dessinateur d'Henri Matisse. C'est-à-dire que Gromaire, dans ses écrits, parle beaucoup de son admiration pour les dessins d'Henri Matisse.
Est-ce possible à cette époque de ne pas côtoyer les avant-gardes, tant littéraires qu'artistiques, et de tourner le dos à la question du surréalisme, ou de tourner le dos à la question du cubisme? Comment est-ce possible?
C'est un personnage très atypique qui ne veut rentrer dans aucun courant. Donc, il les connaît. Et c'est également le projet de l'exposition de dire qu'on n'est pas sur cet artiste seul dans son atelier, l'artiste un peu romantique, mais c'est un artiste en relation avec Herbin, avec Rouault, avec Matisse, mais qui n'a pas envie de rentrer dans un courant et de créer d'ailleurs son propre style. Aujourd'hui, quand on est face à un tableau de Marcel Gromaire, directement on reconnaît sa touche et son travail de la peinture. L'idée de sa démarche, c'est le questionnement de la peinture. Et donc certes, on le voit à un certain moment donné, il est influencé par le cubisme, mais il ne va pas jusqu'au bout. Il est influencé également par le rôle social de l'art, quand il se rapproche d'Herbin avec l'exposition universelle de 1937. Mais il garde sa ligne assez marginale et son style, sans forcément rentrer dans ses idées d'école et de courant.
Au milieu de la naissance de ce mouvement artistique qu'on appelle le cubisme, hein, dans ses années de formation à Paris, néanmoins il ne sera jamais cubiste, parce que justement il est très fidèle à la figure, hein, à l'anatomie. On va voir que le nu le passionne par exemple, l'observation de la nature, le paysage, les arbres. Et d'ailleurs, pendant ses années de formation, il va recevoir également l'enseignement de Le Fauconnier, qui va avoir une place importante dans le travail de Gromaire, puisque lui aussi est fidèle à l'anatomie, au rendu des formes. C'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé à la leçon de Cézanne. Et justement, Gromaire revendique aussi énormément le travail de Cézanne dans la géométrisation des formes.
Pour qui nous écoute, et quand vous dites la leçon de Cézanne, en trois mots, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, il s'agit de la géométrisation des formes, hein, c'est-à-dire observer le réel et essayer de simplifier les formes par des volumes géométriques, et la juxtaposition de masses colorées pour donner le volume, rendre le volume. Et donc, voilà, tous ces artistes des débuts du XXe siècle regardent Cézanne, et c'est ce qui va donner naissance justement au cubisme. Dans nos connexions, nous avons aussi le peintre Auguste Herbin, qui lui aussi va passer par ce travail dans un premier temps de géométrisation des formes. Lui va devenir véritablement un peintre cubiste, contrairement à Gromaire, et ensuite devenir un peintre abstrait. Donc là, c'est intéressant, parce que Gromaire, lui, va refuser, en quelque sorte, l'abstraction, parce que certes, il aime l'art décoratif, mais pour lui, justement, le travail autour de la déformation des formes et du cubisme, eh bien, s'apparente trop au décoratif. Je devais avoir une dizaine d'années quand mon père sortit du tiroir de sa table de travail une jolie petite boîte en buis qui, couvercle dévissé, laissa apparaître un morceau de métal déformé couché sur une litière de papier de soie.
Vous avez dit la guerre.
Oui.
Nous approchons de la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, 1918. Durant la guerre, que fait l'artiste ?
C'est assez étonnant parce qu'en fait, il va passer 6 ans sous les drapeaux. En effet, dès 1913 en France, une loi prolonge le service militaire de 2 à 3 ans. Donc, dans un premier temps, il est nommé dans une caserne à Lille, la caserne Négrier. Alors, il a la chance tout de même d'avoir une chambre en ville et il va, pendant cette année-là, eh bien, découvrir les villes de Flandre. Ça, c'est intéressant, il le souligne. Il va découvrir Bruges, il va découvrir Gand. Le caractère flamand de sa peinture s'accentue aussi à ce moment-là.
Muriel Pey.
Ensuite, il va être envoyé sur le front en Alsace. Alors, c'est quelqu'un qui va, bien sûr, comme beaucoup d'autres peintres mobilisés, être extrêmement marqué par cette guerre, mais il ne va pas travailler directement sur le vif. On retrouve juste 6 dessins qui se trouvent au musée Pompidou à Paris, où il note sur le vif, il esquisse des blessés, les représentations de blessés. Ensuite, on retrouve sa trace sur le front de Somme. Et là, il va être blessé à Sauillécourt en septembre 1916. Ça va énormément le marquer. Alors, je me permets de le citer. Dans une lettre, il écrit ceci. « J'ai été blessé lors d'une attaque dans la Somme au mois de septembre par un éclat d'obus au cou. Pas de suite grave, mais je l'ai échappé belle. J'ai été aussi cité à l'ordre de la brigade. » Et je me permets également de citer son fils qui écrit « Je devais avoir une dizaine d'années quand mon père sortit du tiroir de sa table de travail une jolie petite boîte en buis qui, couvercle dévissé, laissa apparaître un morceau de métal déformé couché sur une litière de papier de soie. Il me le tendit avec un sourire mi-gêné, mi-goguenard. Après avoir traversé son cou, laissant une profonde cicatrice indélébile, le bout d'acier important avait frôlé l'oreille interne et jugé bon de s'arrêter à 1 mm du cervelet. » Mon père en avait été somme toute très soulagé, même si de longs mois d'hôpital furent nécessaires pour le remettre debout. Ce fut la seule et l'unique occasion où il fit allusion devant moi à l'horreur de sa guerre. C'était quelqu'un qui parlait couramment l'allemand, qui parlait couramment l'anglais, et il va être envoyé à Saint-Nazaire comme interprète pour l'armée américaine. Alors là, c'est assez étonnant, parce que les hasards des choses font qu'il va rencontrer un artiste qui s'appelle Laboureur, et cet artiste, va l'initier à la gravure. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre le travail de Gromaire et surtout son dessin aussi, parce que la gravure va avoir un rôle important dans son esthétique. Cette expérience de la guerre jeune va être bien sûr un traumatisme. On peut évoquer ce tableau de 1925 qui s'intitule « La guerre » qui se trouve au musée d'art moderne de la ville de Paris où on y voit justement des soldats qui ressemblent quasiment à des robots qui sont dans l'attente, dans un no man's land. Ce tableau est bien sûr un des tableaux les plus célèbres de Marcel Gromaire.
Thomas Wierbinski.
Mais on comprend sa volonté de se réorienter vers la gravure parce qu'il y a un travail des noirs, un travail également des traits en pointe sèche, donc une certaine adéquation avec l'outil et la technique, qu'on ne peut peut-être pas forcément retrouver en sculpture, en tout cas pour continuer sur son travail d'énergie vitale, qu'on peut retrouver davantage sur le travail du crayon et du burin.
Il y a encore quelques imbéciles pour croire au nu chaste. Mais par excès contraire, il en est trop qu'il ne soit dans le nu qu'une excitation visuelle facile. Le nu est mieux que cela. C'est un merveilleux afflux de forces élémentaires, à l'image de la création elle-même, une sorte de joie, de membres jeunes qui s'étirent, sortant du néant comme on sort d'un lit. C'est enfin la plus belle justification cérébrale de la sexualité, puisque le barbare torrent sexuel s'épanouit en une jouissance de l'esprit, sans rien perdre de sa capacité précieuse.
Pourquoi le nu ? Pourquoi la femme ?
Alors contrairement à Henri Matisse, il n'avait pas de muse attitrée, c'est-à-dire qu'il aimait rencontrer des femmes dans la rue, leur demander de poser pour lui. Et comme vous pouvez l'observer dans cette première salle de l'exposition, les nus de Marcel Grand-Mère ont rarement de visages expressifs. D'ailleurs, on voit souvent des visages évidés. Et donc, il s'intéresse véritablement à l'architecture du corps. D'ailleurs, on fait souvent des comparaisons entre les cathédrales de la Flandre et les nus massifs de Marcel Grand-Mère. Il y a aussi parfois un parallèle avec l'arbre. C'est exactement quelque chose qu'on retrouve chez Henri Matisse également. Alors, je me permets de le citer. Dans un entretien de radio en 1950, il dit « Je ne conçois rien de plus riche, disait-il, que la matière directement animée de l'esprit. Ce n'est pas un hasard que les siècles se sont attachés à la divulgation d'un visage, d'un corps humain. Nulle part autant que dans la figure humaine, la vie ne se manifeste avec plus de force intérieure et de subtilité. Ne plus vouloir cette aventure est une abdication. » Et donc là, on voit bien ce refus aussi de l'abstraction, le fait de trouver dans le nu, dans le corps, eh bien, l'esprit qui anime la vie aussi, le corps féminin qui porte aussi la vie. Il dit également, il y a encore quelques imbéciles pour croire au nu chaste, puisque le barbare torrent sexuel s'épanouit en une jouissance de l'esprit, sans rien perdre de sa capacité précieuse.
Oui, une question que je me posais. Vous dites il recrutait ses modèles dans la rue. Comment ça se faisait? C'est imaginable, ça?
Son fils qui en parle dans un texte assez court dans le catalogue Raisonné, où il explique que son père adorait se balader dans la foule. Et d'ailleurs, c'est une thématique qui revient, les fêtes populaires. C'était une de ses passions, la question du cirque notamment, et qu'il les recrutait de cette manière-là. Alors après, vous dire quel contrat était passé avec les modèles, on n'en sait rien du tout. C'est aussi la volonté de la famille de respecter celle de Marcel Grand-Mère, de garder ses relations dans l'anonymat.
Et donc, on voit également dans cette esthétique du nu, si on s'approche de ses dessins, ce travail à l'encre de Chine, avec ces hachures qui évoquent aussi l'énergie dont parle Marcel Grand-Mère, cette vitalité aussi à travailler, à créer, voir l'œuvre en train de se faire, le geste en train de se faire devant nous. Et donc, on n'a pas une ligne, un cerne qui délimite nettement les formes, bien sûr qu'ils apparaissent au fur et à mesure des répétitions du trait, et bien sûr on y voit aussi l'architecture, c'est-à-dire la géométrisation des volumes, des formes, les cuisses larges, les seins obtus, la forme circulaire véritablement du visage. Et donc il va souvent travailler à l'encre de Chine puisqu'il n'y a pas de repentir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer le trait.
Là, cette sculpture Bambara qui n'appartenait pas à Marcel Grand-Mère, mais qui est dans la même veine de sa collection, puisqu'on savait qu'il avait une collection d'art africain, et justement montre l'influence de l'art africain dans la conception et la création donc, d'un modèle, on pourrait dire, grand-mérien. Sa représentation de la femme représente à la fois des épaules extrêmement larges, des hanches aussi très développées, des seins volumineux et un visage assez épuré, ce qu'on retrouve dans la sculpture Bambara. Et pour nous, c'était intéressant de le mettre à la fin du parcours sur les nus pour éviter justement que notre visiteur puisse se dire que Marcel Grand-Mère était influencé directement par l'art africain et ça a été son inspiration unique. Non, c'est une de ses sources d'inspiration, mais pas la seule. Et donc l'art africain joue un rôle alors assez important pour la représentation féminine de Marcel Grand-Mère, mais il n'ira pas dans la même déconstruction qu'on peut retrouver par exemple dans le travail de Pablo Picasso. Donc là c'est pareil au niveau des courants, il connaît le cubisme, l'importance de l'art africain, il s'en inspire, mais ne va pas comme les autres dans une déconstruction totale.
Alors, il faut aussi parler, encore une fois, du contexte, hein, du quartier de Montparnasse. Il va rencontrer Modigliani, par exemple. Il va rencontrer Chagall, donc tous ces artistes de l'école de Paris. Ce que l'on peut également noter hein, dans cette façon d'appréhender le corps féminin, c'est l'influence des arts premiers, puisque Marcel Gromer va également débuter une collection d'art nègre, comme on disait à l'époque, hein, d'art africain. Et donc, la statuaire africaine est importante pour lui, mais on peut également aussi citer les premières sculptures dans l'Antiquité grecque, hein, ces femmes au volume également très, très stylisé. N'oublions pas, encore une fois, que Marcel Gromer est un homme d'une très grande culture, hein, qu'il a une riche culture d'histoire de l'art également.
Thomas Virbius.
C'est intéressant parce que même au niveau du visage, vous voyez qu'on ne peut pas identifier la personne, quelques traits, et d'ailleurs c'est aussi la volonté de Marcel Gromer qui ne porte pas son intérêt sur le visage, mais sur le corps, d'où l'intérêt de ne pas non plus développer le visage, sinon le regard se porterait directement dessus.
Contrairement à beaucoup d'artistes maudits, on va dire, de cette époque, hein, on pense bien sûr à Modigliani, eh bien Marcel Gromer, c'est un artiste qui va être connu et reconnu de son vivant. Et cela très très jeune. Il a la chance, dès 1920, de rencontrer un collectionneur, Maurice Girardin, qui était dentiste, passionné d'art, qui essaye également de découvrir de nouveaux talents. Alors par exemple, dans sa salle d'attente, hein, on pouvait voir des Modigliani, des Matisse, des Marquet. Ce qui est intéressant, c'est que Girardin va signer un contrat d'exclusivité dès 1920 avec Marcel Gromer pendant 10 ans. Jusqu'à la crise, on va dire, de 29, qui marque l'arrêt de ce contrat. Et donc, cela va permettre, bien sûr, à Marcel Gromer eh bien, de vivre de son travail. Dans les années 20 et 30, il expose en France, à l'étranger. Il va, par la suite, recevoir des prix. Donc, c'est vraiment un artiste qui sera connu, reconnu de son vivant. On peut souligner aussi qu'en 1950, il devient professeur à l'École des arts décoratifs de Paris, et cela jusqu'en 1962.
Vous avez parlé d'autodidacte, de refus d'école.
Donc voilà, malgré cette absence de détails, des visages, etc., donc, et cette géométrisation des formes, eh bien, il y a une volupté, une sensualité hein, qui se dégage de ses nus.
Il y a quand même des affinités avec la peinture flamande contemporaine. Oui. Mm-hmm. Je pense à Constant Permeke, qui d'autres encore pourraient être...
Mais les influences sont assez nombreuses dans le travail de Marcel Gromer. On le met notamment, par exemple, sur Rouault, où on retrouve ce travail de la ligne noire pour les contours des personnages. Le traitement de la ligne, on le met aussi en lien avec Giacometti, où on retrouve cette énergie aussi dans le trait. Voilà à peu près les filiations. Et les filiations ne sont pas forcément visuellement très, très proches, mais quand on met... Le travail de Matisse qui, lui, recherche la ligne, alors que Marcel Gromer est plus dans l'énergie des lignes. Et pourtant, ils se côtoient et ils échangent. Ils ne cèdent pas sur le même traitement que Matisse parce qu'ils respectent son propos. Et pourtant, la filiation est clairement revendiquée.
Une tête qui me fait penser à un peintre connu, n'est-ce pas?
Oui, voilà. Donc, on voit ici l'influence de Matisse et aussi de Modigliani dans ce travail. De cernes noires, cernes assez épais, de géométrisation des volumes également, cette mise à distance aussi par rapport au réel, hein, déformation du corps, puis ce travail de couleur aussi là qui est assez étonnant avec ces tons d'ocre, de orange qui contrastent avec des tons plus froids de bleu, de vert, une palette qui montre les talents de coloriste hein, de Marcel Gromer ici. Et bien sûr, ce travail aussi de géométrisation des formes. Alors, c'est intéressant de souligner aussi qu'il va rencontrer, on en reparlera, Georges Rouault également. Il s'intéresse aussi au mouvement de l'expressionnisme, mais il s'est toujours dit d'aucun mouvement. Parfois, il critique eh bien, les distorsions trop fortes de l'expressionnisme. Et donc, je parlais de Rouault, tout ça pour dire qu'il va plus tard s'intéresser au vitrail. Hein, il faut savoir que Rouault a aussi commencé comme vitrailliste hein, à ses débuts. Et là, on voit bien aussi à travers ce jeu de lignes noires, de jeu de lumière et de couleurs, aussi pourquoi Marcel Gromer plus tard va s'intéresser au vitrail.
Deux dessins que j'aime beaucoup, qui font partie donc, de la donation, qui s'appellent donc Soch et Gagarine. Deux titres complètement énigmatiques dans l'œuvre de Marcel Gromer, puisque constamment il s'appelle soit nu allongé, nu couché, nu dans un fauteuil. Il n'y a pas d'identification des modèles. On sait très peu d'éléments, souvent recrutée dans la rue, souvent blonde aussi, mais il n'a pas d'affinité, en tout cas, elle n'est pas communiquée au grand public comme pouvait le faire Matisse. On connaît l'identité exacte de ses modèles, ses relations, ou parfois Matisse va leur imposer des cours de souplesse, un régime alimentaire bien précis. Le lien de Marcel Grumet avec ses modèles reste intime et n'est pas diffusé par la famille. Et on se retrouve face à ces deux dessins au titre complètement énigmatique. Alors, on a essayé de creuser davantage, mais on n'a pas eu plus d'informations sur cette identification. Et là, c'est porté justement au public, c'est-à-dire qu'on est en demande. Peut-être qu'on aura pendant l'exposition des retours de visiteurs nous donnant une identification, par exemple, du terme « soche », qui se rapproche d'un terme allemand voulant dire serrure, mais qui n'a aucun lien, par exemple, avec le dessin représenté.
Quant à Gagarine, il ne s'agit nullement du cosmonaute soviétique.
Non, parce que ce n'était pas la même époque. Donc, on n'a pas l'influence de Gagarine. Et puis alors, essayer de retrouver un lien entre une femme debout nue et le lien avec l'astronaute, je pense que c'est un défi.
Alors vous avez ici une citation de Jean Cassou, qui a été le directeur fondateur du Musée national d'art moderne. Il faut savoir que Girardin, donc le collectionneur de Grumet, eh bien va léguer en 1980 donc les œuvres au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Et donc ce musée possède un fonds important d'œuvres de Grumet. Alors ici, il évoque les liens entre Grumet et Rouault. Et il dit « Peut-être Grumet est-il avec Rouault le seul peintre de notre temps dont le cerveau contienne ainsi une société vivante et originale, dont l'œuvre nous apporte une vue générale de l'univers, le seul peintre pour qui les êtres et les choses s'approfondissent en nombre tragique, se forment et se déforment en arêtes et en courbes significatives, le seul peintre dont nous puissions sentir qu'il est capable de rire et de pleurer. » Et donc on vous a mis ici en parallèle une série de toiles de Georges Rouault qui font partie de nos collections grâce à la donation Thériade. Donc Thériade qui était donc cet éditeur d'art et dont la veuve Alice Thériade nous a fait une très très belle donation. Non seulement de livres illustrés, de livres d'artistes, mais également de tableaux. Et donc vous avez cette série divertissement qui évoque eh bien, le monde des saltimbanques, le cirque, le monde populaire. Hein. Donc c'est une thématique que l'on retrouve aussi chez Marcel Grumet dans certains de ses tableaux. On retrouve bien sûr le cerne noir de Georges Rouault, ces tons rompus, superposés, et donc ce travail autour de ces personnages.
Et pourquoi avoir placé une œuvre de Christian Bonnefoy dans cette exposition, qui est un artiste qui travaille la question du dessin?
Alors, vous avez la question effectivement du dessin. On retombe sur le propos de l'exposition qui était Regard, donc Regard avec nos collections. Et c'est une œuvre donc, de notre fond. Que Christian Bonnefoy travaille la question, comme Marcel Grumet et Matisse, du dos. Donc, toute cette sensualité qu'on retrouve dans un dos, où l'identité n'est pas dévoilée de la personne, même parfois son sexe qui est assez ambigu, on ne sait parfois pas si c'est un dos de femme ou d'homme.
Deux tableaux qui évoquent aussi les liens esthétiques qu'on peut faire avec Rouault, mais aussi avec Matisse, puisque là on a un nu dans un intérieur, c'est un thème extrêmement fréquent chez Matisse, non seulement dans son travail autour des odalisques, mais aussi dans les années 40, dans ses œuvres de Vence. Ici, donc, on voit donc cette jeune femme dans un intérieur avec quelques motifs décoratifs à l'arrière-plan qui évoquent aussi le travail décoratif d'Henri Matisse. Ce fond orangé, rosé qui contraste avec les tons bleutés et le cerne noir. Et puis cet élément, ce bijou avec ses très, très extrêmement schématisés, ces formes rondes qui évoquent aussi l'accessoire décoratif. Donc le parallèle entre le travail de Matisse et de Grumet.
Donc ce travail assez complexe du dos, où Christian Bonnefoy partait encore plus dans la déconstruction, on trouvait intéressant le regard extrêmement peut-être réaliste et académique qu'on peut voir chez Marcel Grumet, qui ne va pas, lui, vers une déconstruction totale, ni même une abstraction, puisque Christian Bonnefoy flirte aussi avec ce champ-là. La mise en regard était assez intéressante.
un livre qui fait partie de nos collections grâce à la donation Thériade. Il s'agit du livre de Fernand Léger qui s'intitule Le Cirque, qui a donc été édité par Thériade. Le cirque est un thème récurrent chez ces artistes modernes, aussi bien Matisse s'est intéressé à la thématique du cirque dans son livre Jazz, Chagall également réalise un livre qui s'intitule Le Cirque avec Thériade. Donc c'est vraiment un univers populaire, fait de mouvements, de musique, de lumière, de couleurs, qui inspire donc beaucoup les artistes modernes.
Et y compris contemporains, je pense à Claude Lévesque.
Oui, tout à fait, oui.
Et vous disiez ?
Et oui, donc là on voit ici ces figures dansantes, donc on retrouve aussi l'idée du mouvement qui est présent dans les figures de Fernand Léger, cette stylisation, les seins qui sont représentés comme des disques circulaires, ce travail aussi de motifs décoratifs et qui évoque aussi les arts primitifs. Et donc Fernand Léger et Gromaire se sont rencontrés, bien sûr, dans ce contexte du quartier de Montparnasse à Paris. Et on en reparlera par la suite. Ils ont également travaillé ensemble en 1937 lors de l'exposition universelle à Paris, qui va réunir donc différents artistes de cette époque.
Il a eu des élèves avec cette volonté aussi de ne pas créer d'école, ce qui est tout à fait cohérent dans sa philosophie. N'étant pas affilié à un courant, il ne souhaitait pas non plus être maître et fondateur d'un courant artistique. Et on est davantage dans la même veine que Matisse, qui va monter pendant une année son école, de ne pas créer d'école du cubisme, d'école du fauvisme. Mais de plus s'attacher à une volonté d'avoir son propre style et quel est son discours sur la peinture.
C'est quelqu'un qui a voyagé, on en a parlé bien sûr en Flandre, mais il se rend aussi en Angleterre, il se rend en Norvège et il va également découvrir l'Allemagne et bien sûr New York. Alors New York, c'est un moment important puisque l'architecture de New York va beaucoup le marquer. Comme Matisse, puisque Matisse aussi va parler aussi de New York lors de son voyage aux États-Unis, lorsqu'il part pour Tahiti, il s'arrête aussi à New York.
Muriel Peille.
Alors là, nous en rentrons dans une autre section de l'exposition qui nous permet d'aborder le travail de gravure de Marcel Gromaire et d'évoquer aussi les liens entre Marcel Gromaire et Thériade. Vous avez d'ailleurs ici une photographie de cet éditeur qui est né en 1896 sur l'île de Lesbos, qui arrive à Paris pour faire des études de droit, comme Matisse, comme Gromaire, et qui se passionne pour l'art moderne. Alors il va devenir journaliste, critique d'art, puis créer sa propre maison d'édition. Et en 1943, il fait paraître son premier livre d'artiste avec la collaboration de Georges Rouault autour du livre justement qui s'appelle « Divertissement ». Et donc, il va proposer aux artistes modernes des textes pour vraiment travailler sur l'objet livre. C'était un passionné de bibliophilie et il veut retrouver ce lien entre le dessin et le texte et faire vraiment du livre un objet d'art.
De porter un focus sur l'œuvre papier de Marcel Gromaire, qui n'était pas forcément connu du grand public. Beaucoup de retours, notamment sur la peinture de Marcel Gromaire, qui est largement diffusée, mais l'œuvre graphique l'est beaucoup moins. Et elle méritait d'être mise à l'honneur parce qu'on a vu deux donations très importantes, qu'elle a aussi une part extrêmement importante dans son travail, au regard du fait que tous les jours, il fait ses dessins, qu'il en jette beaucoup, mais c'est une pratique quasiment quotidienne, et donc elle a son importance dans sa création, qu'on n'est pas sur des esquisses ou des dessins préparatoires, mais bien sur des œuvres terminées.
Et les artistes aimaient la compagnie de Thériade, puisque quelqu'un qui avait un point de vue sur l'art. On sait par exemple que Thériade va inciter Matisse à développer son travail autour des papiers découpés. Et donc, les liens entre Marcel Gromaire et Thériade se font dès 1929, puisque Thériade écrit un article dans L'Intransigeant où il souligne le travail de Gromaire. Il porte beaucoup d'intérêt pour le travail de ce peintre. Suite à cela, Marcel Gromaire invite Thériade dans son atelier Et donc, il parle justement de gravure, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, Marcel Commer était passionné de gravure. Alors, il faut savoir que Thériade travaillait surtout avec la technique de la lithographie. Pour Gromère, la lithographie, hein, c'est pas vraiment de la gravure. Et donc, lorsqu'ils vont décider de collaborer ensemble, très vite, Marcel Gromer va proposer à Thériade le travail de l'eau forte. Et donc, c'est un des rares livres de la collection La Donation Thériade, hein, réalisé avec la technique de l'eau forte. Alors, quel est ce livre? Eh bien, ce livre, c'est Macbeth.
Cette organisation extrêmement rigoureuse et quotidienne, et puis une recherche perpétuelle de l'énergie vitale de la femme, du trait, et de se dire que pour capter au mieux ses sensations, il faut un travail rigoureux et quotidien.
Macbeth, eh bien, va commettre un régicide avec l'appui de sa femme, hein, Lady Macbeth, et il va être rongé par le remords. Et il y a un côté un peu aussi magique, ésotérique, dans ce texte de Shakespeare qui évoque aussi les sorcières, la maladie psychologique, hein, puisqu'elle a des visions, etc.
Patrice Leparpe.
Cette idée de regard avec celle de Matisse, puisque cette idée de gamme, bien sûr, que pratiquent nombre d'artistes, hein, pour aller plus loin dans leur recherche, pour se faire la main, Matisse l'a pratiqué également, avec en plus, pour Matisse, une dimension où les techniques se mêlaient, hein, comme dans une même journée, il pouvait pratiquer la gravure en détente, après la peinture, après la sculpture, après ses recherches sur les papiers découpés, etc. Et chaque discipline enrichissait l'autre, venait apporter certaines, comme par exemple la gravure pour Matisse était un domaine d'expérimentation. Les recherches, et là il y a un très très beau portrait qui le prouve, Matisse le considérait comme une peinture, par exemple ce portrait de Lydia. Chaque expérimentation venait enrichir l'autre pratique et on voit là, dans les échanges qui sont proposés, dans ces conversations entre Matisse et Gromer, que dans ces suites, on voit toute la progression, l'intensité du trait apportée par un protocole de travail chez Gromer, apportée par peut-être une liberté et une inventivité supérieure chez Matisse.
Ce qui est assez étonnant, hein, si on parle d'Henri Matisse, c'est que Matisse, lui, va couper les ponts, va couper vraiment les liens avec le Nord. Hein. Il va tomber amoureux de la lumière méditerranéenne, ce qui n'est pas du tout le cas de Gromer. Hein. Gromer restera foncièrement un homme du Nord. Il est allé en Bretagne, il va séjourner en Bretagne. Il ne sera jamais attiré par la lumière méditerranéenne comme d'autres peintres, hein, de cette époque. La seule influence vraie parmi les modernes fut celle de Matisse dessinateur, qui soit par ses élèves, soit par quelques conseils directs, me fit comprendre la permanence vivante de Cézanne et des vieux maîtres. Je fus frappé aussi par les nus fauves de Matisse et l'intensité de leur localité colorée. Mais ma couleur, je la dois à mon pays natal, qui n'a cessé de m'envoûter. Elle me fut composée dès l'enfance, dictée en quelque sorte par l'expérience. Elle est cependant toujours gouvernée par le dessin.
Aujourd'hui, nous avons des collections qui sont rarement présentées, et notamment une surprenante qui a été faite par Marcel Gromer en 1955. Donc, vous voyez, au tout début, hein, puisque le musée a été fondé en 52 par Matisse lui-même. Et cette collection, elle n'était pas présentée.
Un peintre figuratif, il va d'ailleurs toujours revendiquer cette figuration, c'est-à-dire une peinture classique qui est fidèle au réel, mais bien sûr en s'intéressant à la modernité.
Alors pourquoi ? Eh bien parce que les choix qui ont été faits en 82 et en 92, quand le musée est venu s'installer dans le palais Fénelon, ont fait que pour la lisibilité, il faut rappeler que nous sommes au Cateau-Cambrésis, hein, c'est un petit village et que le rapport entre Matisse et le Cateau n'était pas forcément évident, il a été décidé de mettre Matisse en avant. C'est le musée Matisse, etc. Mais à l'origine, ce musée s'appelait musée Matisse-Herbin-Gromer. Donc pour nous, c'est un peu repartir aux sources du musée, voir ces collections qui avaient été un peu mises en sommeil, je dirais, et les revisiter, leur porter un nouveau regard. Donc on introduit un cycle d'exposition qui s'appelle Regard, où on ressort ces œuvres qui n'étaient pas présentées dans les collections, et on les met en rapport avec, ou c'est le cas aujourd'hui, d'autres œuvres de nos collections, ou des œuvres qu'on a sollicitées en prêt, pour faire voir toute la cohérence et la pertinence de la constitution de cette collection.
La thématique de la nature morte, qui est un genre qui a aussi intéressé Marcel Gromaire, l'objet est un élément qui va focaliser l'attention des peintres cubistes, à travers la déformation notamment de l'objet en lui-même, ce lien entre le fond et la forme, cette fusion entre le fond et la forme. Il va travailler la thématique aussi de la nature morte. Ensuite, dans une deuxième section de la salle, on évoque encore une fois ce lien entre la nature et l'arbre. L'arbre qui est vraiment un motif récurrent dans son travail. On a parlé du parallèle entre le corps de la femme et l'arbre. C'est une thématique qui a énormément inspiré Matisse. D'ailleurs, dans nos collections permanentes à l'étage, vous avez l'arbre de Matisse qui se trouve dans la salle à manger Thériade. Matisse disait « Quand je dessine un arbre, je m'élève en même temps avec lui. » Et chez Gromaire, on retrouve dans ses propos, dans ses écrits, c'est aussi cette dimension qu'on peut qualifier parfois de spirituelle autour de cette élévation provoque la vue de l'arbre aussi dans son travail. L'exposition se conclut par un travail photographique d'un artiste qui s'appelle Philippe Bernard. Il s'agit d'une commande qui avait été réalisée pour le centenaire de la naissance de Marcel Gromaire, puisqu'il y a eu une exposition dans ce tout petit village de Noyelles-sur-Sambre. Ils ont réussi à avoir des prêts pendant 15 jours du musée d'art moderne de la ville de Paris. C'est un événement assez étonnant. Et donc à cette occasion, cet artiste photographe, Philippe Bernard, a réalisé une série de photographies en noir et blanc sur le motif dans le village de Noyelles, dans les pâturages, dans le bocage, près du canal de la Sambre, où il met en situation des personnages qui évoquent des personnages de l'époque, une fillette se baladant dans la nature, un pêcheur, un prêtre, pour en quelque sorte aller sur les traces, sur les pas de Marcel Gromaire dans notre région.
Au musée Matisse, au Cateau Cambrésy, jusqu'au 30 septembre, Marcel Gromaire. Avec Muriel Pey, Patrice de Parpe et Thomas Verbinski.
Gromaire, donc, avec Herbin, sont les donateurs originaux après Matisse, avec un nombre d'œuvres important. Et pour Gromaire, Matisse était un maître, c'était un exemple. Donc on peut mettre en association le travail réalisé par Gromaire, celui par Matisse, et de voir leurs différences, leur complémentarité, et toute la richesse de ce fonds qui, finalement, envisage, depuis la création de Matisse, jusque l'abstraction géométrique.
Ici, il y a une autre thématique qui est très importante de le travail de Gromaire, c'est l'évocation de la vie quotidienne des travailleurs. Un célèbre tableau de Marcel Gromaire qui s'appelle Le chômeur, le bûcheron, donc un homme au travail. Et donc il y a aussi tout le contexte politique de l'époque qui est intéressant à souligner. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais engagé auprès du parti communiste, contrairement à Auguste Herbin par exemple, parce qu'il était très fidèle à son indépendance. Néanmoins, il va défendre le Front populaire et il va faire partie aussi des débats qui ont animé la scène artistique autour du réalisme socialiste. Débat qui a été lancé notamment par Aragon. Et donc il va participer à cette réflexion autour de la figuration, sur la manière dans laquelle l'art doit faire partie du quotidien, ce lien entre l'art et la vie, et comment l'art peut nous amener aussi à nous métamorphoser, à changer la société.
Vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes au Cateau Cambrésy. Cateau Cambrésy, c'est la paix du Cateau Cambrésy, c'est important la paix à l'époque. Vous êtes dans le palais Fénelon. Fénelon est le premier, en écrivant ici son livre Télémaque, à utiliser 100 ans avant la Révolution française les trois mots de liberté, égalité, fraternité, rassemblée. Donc vous voyez, c'est aussi quelque chose de symbolique. Donc on veut aussi faire comprendre combien, par exemple, le textile a été important dans sa fabrication ici sur la création de Matisse et d'Herbin.
Alors il dit à propos de Noyelles, « Noyelles n'offre pas, pour employer une tournure romantique, ces charmes éclatants qui retiennent le visiteur étranger. » Il n'a pour soi que sa verdure particulièrement éclatante, sa rivière tortue entre les saules, son canal mélancolique et son immense ciel. Ce ciel qui couvre tous les Pays-Bas et abritera les rêves de tant de grands ancêtres.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot.
Alors il dit en 1946, « Mon village me donne en ce moment une douce joie. Bien que mêlée à la mélancolie du souvenir, malgré le mauvais temps, la lumière y est belle et grave. »
Tisse, je vous l'ai souvent dit, est issu d'une famille de tisserands qui est installée depuis plus de 300 ans au Cateau. Grand-mère est voisin du Cateau. Donc comment ces productions industrielles ont influé aussi sur la création des artistes. Donc on veut redonner du sens, on veut réimplanter le musée sur son territoire, de façon à ce que les visiteurs qui viennent ici aient aussi toutes les cartes et toute la connaissance du site, du travail des artistes, pour mieux l'apprécier et pour mieux le comprendre.
Alors cette section de l'exposition évoque la thématique du paysage maintenant, hein, chez Marcel Gomer. On a parlé du nu, on a parlé du corps, de son intérêt pour la vie sociale.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Secteur des arts plastiques.
Et nous allons continuer ce système d'exposition en regard pour mettre en regard, par exemple, des thématiques qui ne sont pas aujourd'hui développées dans les collections Matisse, par exemple. On ne parle pas de la danse, de la musique, etc. Donc, en ayant des petites expositions thématiques au sein même des collections ou de plus grande ampleur ici dans nos locaux d'exposition temporaire, ça va nous permettre de travailler sur le fond.
Ce samedi 15 septembre à 15h, conférence sera donnée par Thomas Verbinski sous le titre « Histoire de l'esthétique du canon féminin ».
Patrice Deparpe, directeur du musée Matisse. Nous avons ici une richesse, c'est un groupe de médiateurs qui sont capables de vous emmener dans tous les univers, dans celui de Thériat, dans celui de Matisse, dans celui d'Herbin, dans celui de Grand-Mère ici, de vous le faire découvrir et d'après de vous faire par les pratiques techniques qu'ils maîtrisent parfaitement, faire des ateliers, etc. Donc ils peuvent à la fois guider et faire les ateliers.
Le 22 septembre, un stage adulte tiendra avec Philippe Bernard sous la thématique composer un paysage en photographie.
La seule influence vraie parmi les modernes fut celle de Matisse dessinateur, qui soit par ses élèves, soit par quelques conseils directs, me fit comprendre la permanence vivante de Cézanne et des vieux maîtres. Je fus frappée aussi par les nus fauves de Matisse et l'intensité de leur localité colorée. Mais ma couleur, je la dois à mon pays natal, qui n'a cessé de m'envoûter. Elle me fut composée dès l'enfance, dictée en quelque sorte par l'expérience. Elle est cependant toujours gouvernée par le dessin.